Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre podcast aux Premières Loges où est-ce qu'on couvre la Coupe du Monde. Et je suis en compagnie de Thomas Lafond. Comment ça va, Tom?
Écoute, moins enrhumé qu'hier, sans bonne nouvelle. Mais ouais, ça va bien. Très content que la Coupe du Monde soit commencée.
Exactement, la Coupe du Monde est commencée. Le match d'ouverture 14 contre Équateur vient d'être joué, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va faire un autre épisode. Demain, là, en fait, enregistrer l'autre épisode sur les matchs qui vont se dérouler demain, ainsi que celui du match d'ouverture. Pour le moment,
on va... parce qu'on sait que ça va être pas tant la peine de faire un épisode pour un seul match qui était pas tant haute que ça, de toute façon. Donc,
Ouais, 14 Équateur, on aurait peut-être espéré un meilleur match.
Le 14 a prouvé pourquoi il ne méritait pas d'être dans la compétition. Mais ça, c'est un débat qu'on va avoir demain.
Exactement. Mais laissons ça à demain, justement, et parlons, explorons le groupe G, donc le groupe des grands prétendants au titre, le Brésil, entre autres, mais également de la Suisse, de la Serbie et du Cameroun. Donc, un groupe assez relevé. Commençons avec les grands attendus, le Brésil, Tom, une équipe extrêmement alléchante, très bien équilibrée à toutes les positions sur le terrain. À commencer par les gardiens de but, où on a parlé plutôt de ceux de l'Allemagne avec Neuer et Ter Stegen. Mais ici, on a entre autres Alisson Becker de Liverpool, qui est un gardien incroyable, ainsi que Ederson de Manchester City, un autre gardien qui a fait amplement ses preuves. Parle-moi de ce duo de gardiens de but. Qui va être le titulaire selon toi?
Ben écoute, c'est facilement Alisson Becker. J'aime bien Ederson, mais Becker, ce qu'il fait à Liverpool... C'est vraiment incroyable. Ederson, je pense, j'irai pas au point que certains vont à dire que c'est un mauvais gardien, mais je pense qu'il profite du fait qu'il est à City et qu'il n'est pas très occupé tant de matchs pour mieux paraître. Il paraît bien à City, je ne sais pas que c'est un mauvais gardien, mais Becker est clairement le gardien supérieur comparé à Ederson. Et si tu me permets, je vais faire un petit mélange aussi sur le reste de l'équipe. Honnêtement, à part les latéraux à la défense, il n'y a aucune faiblesse dans ce club-là. Il faut dire que du côté des latéraux, Dani Alves, à quel âge? 38-39 ans.
39,
et Danilo, ce ne serait peut-être pas mes choix de préférence.
Mais je pense que Danilo va être à droite et non pas Alves. Je pense que ça va être Telles ou Sandro à gauche.
Ah, peut-être. Ouais, ça fait du sens. Mais ça, c'est Gartzum, il ne joue pas du grand soccer. Telles qui avait été acquis par United a presque pas joué ou très peu. Il est rendu à Séville. Je ne suis pas trop suivi sa saison pour être honnête, pas le défenseur qui est à Porto. Sinon, Alexandro,
je pense que ça va être lui la meilleure option.
Ouais, c'est sa meilleure option, mais il n'a jamais réussi à atteindre son plein potentiel. Mais sinon, cette équipe-là est simplement parfaite. Autant dans le milieu qu'à la défense et l'attaque, l'attaque, c'est la meilleure de la Coupe du Monde, on ne se cachera pas. Cette équipe-là est tellement lourdée, c'est vraiment l'anxisme. Je trouve. Je serais pas surpris qu'il trouve
Tu es sur mute, Tom. Tu viens de te muter. Bon, ben oui, en fait, qu'on continue. Maintenant que tu es de retour parmi nous, continue.
Ouais, ben écoute, je sais pas quand est-ce que...
Tom? Allons-y.
Malheureusement, tu prends le micro ici. Mais bon, je serais pas surpris.
Muté, en fait, tu parlais de l'attaque qui était bien remplie.
OK, oui, l'attaque est... L'attaque est tellement lourdée, une des meilleures de la Coupe du Monde. Mais je serais pas surpris quand même de voir trouver une façon de perdre comme qu'ils ont fait à toutes les autres Coupes du Monde depuis 2002, en fait. Écoute, ça reste à voir, mais on ne sait jamais avec le Brésil.
C'est vrai qu'on ne sait jamais. Pour appuyer ce que tu disais sur Alisson Becker, moi aussi, je pense que ça va être clairement le gardien partant. Je l'ai écrit dans mon article, vous pouvez aller consulter sur le site du Club École. Mais Alisson est... ouais, je vais toujours le plugger, t'inquiète pas. Alisson est un champion des pénalties. Je pense que il y a des stats de quasiment 50% d'arrêt ou pas loin là, en niveau d'arrêt des pénalties. Et les pénalties sont souvent un enjeu très important dans des compétitions de la sorte. Donc, clairement, en plus d'être un gardien réflexe absolument sensationnel, Becker est clairement le meilleur choix. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour ce qui est de la défense centrale, tu l'as dit, Marquinhos, excellent. Est-ce que ça va être Militao ou Thiago Silva qui va l'accompagner en charnière centrale? Personnellement, j'irais peut-être plus du côté de Militao. Thiago Silva se fait vieillissant. Je pense qu'on veut une défense mobile, plus avec de la rapidité, de la physicalité, ce que Militao et Thiago Silva ont, je crois. C'est solide en défense. Les latéraux, t'en as parlé. Dani Alves, je pense qu'il va être là plus pour un côté leadership, un peu comme un Adil Rami avec la France en 2018. Je pense pas qu'il va avoir beaucoup de minutes.
Il a fait Cube cette année-là. My God.
Adil Rami, ouais. Avait joué 0 minutes, mais il avait été une bonne addition dans le vestiaire.
Ben, écoute, sinon, ça en prend des gars de chambre comme ça. Là.
Ouais, exact. Sinon, c'est ça. Je pense à être Alexandro à gauche et Danilo à droite. Alexandro, tu l'as dit, n'est plus le joueur qu'il était vraiment, mais reste une option décente, là. Puis avec Danilo Alexandro, c'est pas les meilleurs latéraux dans la compétition, mais c'est quand même très décent, là. C'est pas, on va pas pleurer du côté du Brésil avec ces latéraux-là.
Oh ouais, c'est très décent.
Même si c'est pas... oui, c'est le point faible, je suis d'accord avec toi. Ensuite, l'attaque, tu avais commencé sur l'attaque. C'est. Ouais, vas-y.
Ah non, mais ça, je sais que c'est très décent, mais c'était pas au niveau du reste de l'équipe.
Non, exactement. Puis l'attaque, t'en as parlé, mais on a. Un Gabriel Jesus que tu affectionnes particulièrement, un Vinicius Junior qui est excellent avec le Real Madrid, Anthony qui vient d'arriver à Manchester United qui a fait ses preuves quand même, qui est un des seuls joueurs efficaces à United, pas mal. Richarlison, Tottenham, qui est peut-être la surprise en termes de sélection quand tu considères que tu as un Bobby Firmino qui a une excellente saison à Liverpool qui n'a pas été sélectionné. Mais tu sais, l'attaque est tellement garnie que est-ce que Firmino aurait vraiment été super utile à cette attaque-là. Peut-être pas, mais meilleur que Richarlison, c'est à voir. Ensuite, Rafinha à Barcelone connaît une bonne saison quand même lui aussi. Rodrigo au Real Madrid. Martinelli à Arsenal encore. Donc, il y a tellement de bonnes options, de la rapidité, de la technicalité. C'est fou. Et je n'ai pas encore mentionné Neymar. Neymar qui est le leader de cette attaque-là, même s'il y a beaucoup de talent. Ça va passer par lui. S'il connaît un bon tournoi, ça devrait bien aller pour le Brésil. Parle-moi de l'importance que Neymar dans cet effectif-là.
Ben, tu viens de dire, hein, c'est un peu si Neymar va, tout va. C'est oui. Le catalyseur de cette équipe au complet. Ça va être le leader de l'équipe. Puis on l'a vu en 2014, ça avait connu une excellente Coupe du Monde. C'était blessé en quart de finale.
Exact.
Qu'est-ce qui se passe au match suivant? La DFG, 7-1 face à l'Allemagne. C'est le cœur de cette équipe-là. Puis je pense que là, cette année, c'est un peu la dernière chance pour Neymar le Brésil. Il a dit que c'était peut-être sa dernière Coupe du Monde.
Ouais. On ne sait pas ce qui se serait passé en 2014 si Neymar avait disputé la demi-finale. Bon, une dégelée de 7-1, il aurait changé des choses certainement, mais en tout cas, ça n'aurait pas été le même match quand même avec Neymar dans l'alignement. Mais bref, là, il connaît une saison du tonnerre au PSG. Je pense qu'il s'est mis dans le minding, permettez-moi l'expression, de connaître une bonne saison. Une bonne attitude également pour justement performer à la Coupe du Monde. Il est dans les bonnes dispositions. Il n'est pas ennuyé par une blessure, contrairement à plus autres bons joueurs de cette compétition-là. Donc, vraiment, là, si, comme tu l'as dit, très bien dit, si Neymar va, tout va. Et le Brésil n'a pas juste Neymar en plus en attaque, vraiment pas.
Oui, même, ça ferait mal, mais ils peuvent se le permettre s'ils connaissent un tournoi correct. Tu sais. Avec la
faction,
je veux dire, il y a plein de joueurs que sur n'importe quel autre pays seraient titulaires, mais qui vont être sur le banc. Je pense à Martinelli, entre autres, à Rodrigo, même à Gabriel Jesus.
Jesus, tu penses qu'il ne serait pas titulaire?
Ouais, peut-être qu'il y a eu plus Anthony qui serait sur le banc. Désolé.
Ouais,
mettons mon trio d'attaque, par exemple.
Ouais, vas-y.
Neymar, Gabi, puis Vinicius.
Neymar, Gavi?
Gabi, Gabriel Jesus.
Ok, Gabi, j'ai compris. Gavi, je pensais que tu te trompais avec l'Espagne.
Non.
Ok. Bon, ouais, donc moi, Neymar et Gabriel Jesus. Je serais peut-être... Vinicius, c'est sûr qu'il est là aussi, là. Je serais peut-être tenté de mettre Neymar en 10, même en milieu offensif, pour avoir une autre option, un autre joueur en attaque, sachant que la force du Brésil, c'est l'attaque, quoi, qu'ils sont excellents partout ailleurs sur le terrain aussi. Là.
Mm-hmm.
Mais ouais, c'est peut-être mon désir de football offensif qui parle. Là, mais Neymar en milieu offensif a déjà fait ses preuves, puis ça pourrait être absolument explosif avec trois autres joueurs en attaque devant lui. Là.
Vraiment. Alors, on l'a fait pour l'Angleterre. Mettons 11 partants pour le Brésil.
Excellente suggestion. On n'a pas encore parlé du milieu vraiment, mais on en parlera après. Donc, Alisson dans les buts. Danilo, arrière droit. Ensuite, Marquinhos, Eder Militao en charnière centrale. Alexandro à gauche. En milieu de terrain, Casemiro, c'est un incontournable. Fabinho également. Et je pense que j'irai justement avec un Neymar en milieu offensif, suivi d'un Vinicius Junior à gauche, un Jesus en pointe et un Rafinha. Je crois que ça serait Rafinha à droite.
Oh. OK, ouais, c'est un bon choix. Moi, de mon côté, ben, j'ai dit plutôt Alisson dans les buts. Sinon, Danilo à droite, Marquinhos et Militao à Chardin Central. Et j'irai avec Alex Telles.
Telles à la place d'Alessandro?
Ouais, comme défenseur gauche.
Intéressant.
Sinon, milieu, j'aurais Casemiro et Bruno Guimaraes, qui connaît toute une saison avec Newcastle. Puis je vais dire comme toi, Neymar en cam.
Pas de Fabinho!
Ce serait pas mauvais. Ça dépend, tu sais. Si tu veux faire un trio en attaque, ça prend trop au milieu, sinon.
Ouais, mais justement, un Fabinho avec un Casemiro plus pour l'aspect défensif, puis avec un Neymar qui est patrouille le haut du milieu de terrain avec un rôle plus offensif.
Ben écoute, je pense que Guimaraes connaît trop une bonne saison pour ne pas être considéré comme dans le partage.
Mais Fabinho a plus de qualité défensive et de récupération et tout que Guimaraes.
Je suis d'accord, mais je sais pas. Je donnerais l'edge à Guimaraes. Comme ça, tu aurais trois milieux avec des profils différents qui se complètent. En fait, tu aurais Guimaraes pour tout ce qui est aspect relayeur, Casemiro défensivement et Neymar qui s'occupe de défensif.
C'est un bon point.
Mon trio d'attaque. Ce serait Vinicius, Gabriel Jesus et je serais Anthony.
Anthony à la place de Rafinha.
Oui.
Ça se défend également. Je comprends ton point pour la complémentarité avec Guimaraes, Casemiro et Neymar. C'est juste, je me dis, si on est beaucoup tourné vers l'attaque avec un Neymar qui va être beaucoup en attaque et trois joueurs d'avant également, tu veux peut-être plus une solidité défensive. Avec justement, qui n'a plus un Casemiro. Parce que là, si tu as juste un milieu défensif en Casemiro, peut-être qu'il va avoir certaines lacunes défensivement. Mais je comprends ton point. Guimaraes mérite sa place dans l'11 partant. Puis on n'a même pas parlé de Lucas Paqueta, que Tite, le sélectionneur brésilien, aime beaucoup, qui pourrait être cela lui aussi. Fred également, qui a fait sa marque en équipe nationale. Donc, il y a tellement de possibilités du côté brésilien. C'est fou, c'est complètement fou. Et c'est pourquoi, moi, je l'ai dit au dernier Jason Ballon rond, c'est mon choix pour remporter la Coupe du Monde, même s'il y a toujours une possibilité de se rater, de se planter. Et toi, c'est la même chose de ce que j'en compte.
Ben écoute, mon choix, honnêtement, je ne suis pas encore décidé. Ben, écoute, je ne saurai pas avant genre, le 17 décembre.
Bon, ben là, c'est la triche un peu. Là. La Coupe du Monde, c'est quand même le 18. Là.
C'est ça. Mais non, honnêtement, je ne sais pas encore. J'ai juste en quatre équipes. Puis ouais. À chaque fois que je me décide, je suis comme, ah non, écoute.
Quatre équipes, genre Brésil, Argentine, France et Angleterre?
Plus la France, ils ont trop de blessés.
Ouais.
Mais le Portugal.
Portugal, oh, intéressant. Donc, le Brésil, là, pour conclure là-dessus, c'est une formation excessivement pactée, si je pourrais emprunter l'expression. Et des sérieux prétendants au titre.
Pacté passons maintenant. Avec Paqueta.
Comment?
Pacté avec Paqueta.
Pacté avec Paqueta. Très bien dit, très bien dit. Passons maintenant à la Suisse, s'il veut bien.
Oui.
La Suisse qui a défait la France lors du dernier Euro, un match qui n'avait pas du tout plu aux partisans français avec Kylian Mbappé qui avait raté son penalty face à Yann Sommer, ce qui avait éliminé la France. La Suisse, tu sais, la deuxième position dans le groupe est très envisageable pour eux. Ils ont un alignement décent aussi. Mais la Serbie puis le Cameroun, ça va être de féroces opposants quand même. Donc, Yann Sommer, Grégor Kobel dans les buts. On va commencer par là. Et c'est qui ton partant pour toi?
Ben, facilement, Sommer. Il y a eu quelque chose qui est très bon pour la Suisse en compétition internationale et en club. Je ne me trompe pas, c'est celui qui joue avec Dortmund ou celui avec Gladbach.
Kobel, il joue avec Dortmund.
Ah ouais, c'est bien, d'avance, c'est
avec Gladbach. Sommer joue avec Mönchen Gladbach.
Ouais, avec Gladbach. Je peux mettre ça entre les deux Suisses. C'est mon choix pour le quartier partant.
C'est le mien également, même si Kobel est à Dortmund. Sommer, c'est le gardien d'expérience dans cette équipe-là. En défense, ensuite, le gros pilier, Manuel Akanji, qui n'a pas coûté tant cher à Manchester City, mais quel atout là, pour l'équipe des Citizens de Pep Guardiola. Fabian Schär également de Newcastle United, à tes souhaits. Donc, Manuel Akanji, parle-moi de son efficacité, de comment il va être utile à la Suisse.
Ben, c'est le gros défenseur de la Suisse. C'est lui qui va mener cette charnière, en fait. Avec Char. Mais ça. Et excellent. N'est pas une vraie aubaine pour City. Je ne comprends pas comment ils ont eu ça. Qu'ils ont eu pour avoir pour seulement 29 millions, je pense.
Ouais, 25, 30 millions, ouais, quelque chose comme ça. C'est
ouais, c'est vraiment pas cher. Donc ouais. Je ne suis pas beaucoup à City par contre, mais. Va être amené à jouer le rôle de leader pour la Suisse.
Ben, il joue pas beaucoup, mais je pense dernièrement, là, avant la pause, il commençait à jouer pas mal. T'sais, ça lui a pris un temps d'intégration, mais quand il joue, il rend de fiers services à ouais. City. Ensuite, milieu de terrain, peut-être quelques lacunes ici et là. Ben, en fait, il y a un gros pilier au milieu de terrain, Granit Xhaka, encore un joueur d'Arsenal, qui d'autre que toi pour en parler. Remo Fröler, Djibril Sow de Francfort et Xherdan Shaqiri, qui est son utilisation, je ne suis pas sûr qu'il va être titulaire, a été correct au Fire de Chicago, mais reste que ça fait longtemps qu'il a joué et la MLS, c'est vraiment pas le même niveau que la Coupe du Monde. Parle-moi du milieu de terrain et parle-moi de ton Xhaka.
Ben écoute, Xhaka qui a toute une saison avec Arsenal a semblé vraiment j'ai perdu le mot, il faut savoir qu'on enregistre ça à 11h30, là, tombé dans la cure de Juventus cette saison avec Arteta. Xhaka qui défensivement est excellent comme d'habitude et peut contribuer à l'offensive qu'il a faite à certaines occasions avec les Gunners. Sinon, ben Shaqiri, de mon côté, je pense qu'il pourrait être titulaire encore cette année. Il faut dire que tu as dit,
il pourrait.
Le milieu, c'est pas la force de la Suisse. Et je pense qu'il y a d'expérience. Et ça, c'est plus le joueur qui était avec Stoke à l'époque. Mais il peut quand même contribuer d'une bonne façon pour la Suisse dans le mondial. Un joueur que je suis quand même surpris que tu n'aies pas mentionné, c'est Denis Zakaria, qui est chanceux.
Oui, c'est vrai. Je viens de le voir, en fait.
Au dernier mercato.
Oui, mais il n'a pas joué beaucoup à Chelsea, lui.
Ouais, mais devrait quand même avoir.
Il a joué un match, en fait, je pense. Juste un match.
Ouais, mais devrait quand même avoir sa place.
Oui, certainement.
Ouais, pour ces pays-là, souvent, je pense qu'ils s'en foutent un peu du nombre de matchs qui est joué par leurs joueurs. Ils prennent le meilleur joueur disponible. Donc c'est ça. Je pense que Zakaria devrait faire partie de son partant pour la Suisse.
Je suis d'accord avec ça, certainement, Zakaria. C'est Shaqiri, le point d'interrogation. Puis l'attaque du côté de la Suisse, c'est pas mal moins excitant que celle du Brésil. On a quand même un Brill Embolo à Monaco qui connaît une bonne saison. C'est intéressant là. Mais à part de ça, là, Fasnacht, Seferovic au Galatasaray. Écoute, je connais pas sa saison, mais Seferovic, il me semble qu'il a perdu un peu de son lustre. Et Robin Vargas également. Donc, c'est pas l'attaque la plus alléchante, mettons.
Non, vraiment pas. Mbolo, j'avais bien aimé son euro, ouais. Par contre. Mais ça va pas être une attaque qui va faire trembler les filles à plusieurs reprises.
C'est pour ça qu'un Xhaka va être très important dans cette animation.
Exactement, c'est pour ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de son côté, de l'attaque, en fait, de la Suisse.
Tout à fait. Voilà, puis surtout contre la défense du Brésil, là, et ça va être très compliqué. Là, et même si on a parlé que les latéraux du Brésil, c'était pas la force, là, face à un Marquinhos, un Militao, un Thiago Silva et un Alisson Becker, et là, ça va être difficile. Mais la défense serbe et la défense camerounaise sont pas mal moins bonnes que celles du Brésil. Donc, certainement que la Suisse aura des chances. Mais ils vont plus miser du côté solidité en milieu de terrain et en défense, j'ai l'impression, avec Akanji, entre autres.
Mm-hmm.
Passons maintenant la Serbie. La Serbie, qui est une équipe très intéressante, je trouve, surtout pour ce qui est de l'attaque. Moi, je pense que la Serbie pourrait causer la surprise. J'hésitais même à les mettre deuxième dans mon classement et dans mon article. Mais voilà, l'attaque, là, ça dépend aussi. Dusan Vlahovic, qui est un excellent attaquant, qui connaît une saison en demi-teinte à la Juventus, pardon, mais quand même beaucoup de talent. Lui, il est incertain, il est blessé, tout comme Aleksandar Mitrovic de Fulham, qui lui aussi connaît une bonne saison. Donc, lui aussi est blessé. Donc là, ça va vraiment dépendre de eux. S'ils sont capables d'être en santé, peut-être pas à 100%, mais au moins d'être titulaire en santé pour le premier match, la Serbie a vraiment des chances.
Mais ils ont également l'ancien joueur de Francfort et Bost au Real Madrid, Luka Jovic. Oui.
J'ai pas tant confiance en lui, personnellement. Je pense que si Mitrovic et Vlahovic sont en santé, ça va être les deux qui vont être titularisés.
Oui, ouais, évidemment, mais si un des deux est blessé, ou les deux même,
exact.
Il peut faire ça la
va
job.
Être, il va prendre la relève. Exact, c'est sûr. Veux-tu rajouter là-dessus sur Vlahovic et Mitrovic?
Non, mais je veux parler du milieu, ça ne dérange pas.
Oui, vas-y, milieu.
Un milieu qui, sans faire trop de bruit, est quand même très bon. C'est pas au niveau de l'Espagne ou de ces gros pays-là.
Oui.
Mais quand même, Philippe Kostic a connu une excellente Europa League l'année passée. Tadic, qui, comme d'habitude, fait très bien le travail à l'Ajax. Et Milinkovic.
Et il s'en va contre Tadic.
Oui, évidemment, mais bon, avec ces pays-là, tu fais avec ce que tu as.
C'est sûr. C'est juste que sa qualité n'est pas aussi grande qu'il y a peut-être 3-4 ans, notamment en Ligue des Champions avec l'Ajax, où Tadic était fabuleux.
Oui, tu parles de Tu parles de la fameuse run de Cendrillon, là.
Exact, exact.
Oui. C'est sûr qu'il n'est plus à ce niveau-là, mais...
C'était 2019, encore... en fait. J'ai dit 2018, mais c'est 2019.
Fait encore le travail. Puis Milinkovic Savic, qui est encore très dominant à la TIO. Et même que Ilitch aussi, il connaît pas pire saison à Hellas Verona. Pas mal, je dirais, l'un des seuls points positifs dans cette équipe-là. Donc, c'est ça, un milieu qui pourrait être assez intéressant du côté
de la série. Un milieu qui est concentré sur l'offensive quand même, parce que Tadic, ses forces sont à l'attaque. Kostic, pas mal aussi. Milinkovic, Savic est plus en relance. Donc, c'est ça. Peut-être qu'il va avoir des points d'interrogation pour ce qui est de l'aspect défensif de ce milieu-là. Puis parlant de la défense, c'est le gros point faible de la Serbie. Là. Écoute, j'essaie d'identifier des joueurs qui pourraient être des piliers, mais c'est vraiment dur à faire. Là. Nikola Milenkovic de la Fiorentina, peut-être, mais un autre Mitrovic de Getafe, qui n'est pas le frère, si je ne m'abuse. C'est pas le frère de. Non, c'est pas le frère d'Alexander, mais il a le même nom de famille. Fait quoi, la défense, c'est ce qui fait peur pour la Serbie. Là.
Ouais, vraiment, honnêtement, je vous avoue que je suis pas tant calé dans la Serie A, donc je pourrais pas vous dire faire un rapport sur tous ces joueurs-là, mais évidemment, la défense, ça ne s'annonce pas très glorieux, ni même dans les buts, là, ça risque pas d'être...
Non, dans les buts non plus. Donc,
C'est là que Marco, le bas blesse, je trouve, du côté de la Serbie.
Tout à fait. Marco Dmitrovic de Séville, ou le frère de Milinkovic-Savic, Vanja Milinkovic-Savic de Torino. Dmitrovic, je pense que... En fait, je le prononce bien. Ouais, Dmitrovic de Séville, c'est le deuxième gardien derrière Bounou, si je ne m'abuse. Là. Donc, c'est pas très glorieux, la défense. C'est clairement là qu'il va falloir trouver des solutions et espérer des joueurs qu'on n'attendait pas qui sortent très fort. Maintenant, la dernière équipe de ce groupe-là. Ah, puis pour la Serbie aussi, il faut le dire, le gros enjeu, c'est vraiment les blessures de Vlahovic et Mitrovic qui vont être à surveiller.
Ben oui.
Maintenant, le Cameroun. Ouais, tu voulais dire quelque chose?
Ben non, vas-y.
Parfait. Le Cameroun, donc maintenant, Cameroun, l'équipe de Samuel Eto'o, l'équipe qui, selon lui, va remporter la Coupe du Monde. Bon, on a assez parlé du bracket de Eto'o. Mais ouais, le Cameroun, ça s'est dit, n'a pas une mauvaise formation. Il pourrait très bien se rendre parvenir au deuxième rang du groupe et passer au huitième de finale.
Beaucoup d'attaquants.
Comment?
Ont beaucoup d'attaquants.
Beaucoup d'attaquants, effectivement. Puis des bonnes options en attaque. Là. Carl Toko Kambi de Lyon. Une moins bonne saison que l'année passée, mais quand même. Sinon, Georges Kevin Koudou. Et surtout, Le légendaire.
Maxime Choupo-Moting.
Éric Maxime Choupo-Moting, exactement, qui n'était pas censé être un joueur tant que ça d'impact au Bayern Munich, mais connaît une excellente saison. Que ce soit comme titulaire ou quand il rentre du banc, il apporte des buts au Bayern Munich. Il fait vraiment plus que son travail. Je pourrais le comparer un peu, il est moins vieux que lui, mais un Kay Camara du CF Montréal. On ne l'attendait pas, mais il lui remplit vraiment plus que la tâche en tant qu'avant-centre au Bayern Munich. Donc, okay, c'est lui.
Je pense que tu allais comparer à Lewandowski. Je trouvais que tu aimais ça un peu.
Non, je n'irai pas jusque-là. Lewandowski est vraiment à un autre niveau. Mais, ouais, je suis pas Moting. S'il est capable de reproduire les performances qu'il a à Munich avec le Cameroun, ça serait très, très bénéfique à la formation camerounaise. Parle-moi de cette attaque-là.
Ben écoute, comme tu as dit, c'est le point fort de cette équipe-là. Parce que le reste, ça s'en est pas être très fameux. À part André Onana qui est, comme d'habitude, est un gardien très justement en anglais, mais reliable, que tu peux te fier. Mais sinon, ouais, le reste de cette équipe-là, fiable, merci. Outre que l'attaque, c'est pas très fameux. De milieu.
C'est un bon Anguissa en milieu qui va être la pierre d'assise.
Ouais, mais sinon.
De Naples. Sinon, c'est pauvre, effectivement.
Ouais, c'est très pauvre, la défense également. Mais ça, l'attaque, t'as trois bonnes options. En attaque, tu as dit tout de quoi Kambi qui a une moins bonne saison, comme tu as dit, mais peut quand même être une très bonne option. Le légendaire Choupo-Moting et sinon Vincent Aboubakar, le vétéran, ouais, qui pourrait être une bonne option comme remplaçant.
Ouais, ben Christian Bassogog aussi qui joue en Chine maintenant. Aboubakar, tu en as parlé, hein, le côté un peu comme Mitrovic avec Fulham, mais Aboubakar a un côté physique qui pourrait donner de l'espace, mais en même temps, je suis pour Moting, je pense pas qu'Aboubakar va être titulaire. Même s'il a dit dernièrement qu'il aurait pu jouer dans des grands clubs et qu'il n'aimait que Mo Salah n'était pas très bon. Bref,
attends.
Vincent, on va calmer là. T'as pas vu ça?
Non, j'ai pas vu ça.
Ben, il a pas dit qu'il était pas très bon, mais il a dit que c'était pas un joueur qui l'impressionnait. Il trouvait qu'il avait pas tant d'impact dans le jeu. Puis il a dit, moi aussi, j'aurais pu jouer à la place de Salah. J'ai juste jamais eu l'habitude de jouer dans les grands clubs.
Ben non.
La logique, c'est que tu n'es pas assez bon pour jouer dans les grands clubs, Vincent Aboubakar. Désolé, là. Mais bon.
Ben non, voyons donc.
T'as dit qu'il a dit ça. T'as le dit.
Ah, d'accord.
Ça se prend pour un autre, hein? Bon.
Ouais.
Ben ouais, on souhaite la meilleure des chances à Vincent Aboubakar, pareillement. Puis André-Franck Zambo-Anguissa, qui a un nom que j'adore, honnêtement, là. Lui aussi, là, va être crucial au milieu de terrain parce que, comme on l'a dit, là, en défense et au milieu, c'est pas très bien garni. Donc, lui aussi a un aspect physique, une très belle chevelure. Va être essentiel là, au milieu de terrain du Cameroun. Sinon, en défense, tu as parlé d'André Onana. Ça, c'est une des grandes forces du Cameroun de pouvoir compter sur Onana, qui a un gardien réflexe sensationnel. On l'a vu à l'Ajax, on l'a vu aussi à l'Inter Milan cette saison. S'il est capable de voler un match, de faire des gros arrêts, ça pourrait grandement aider le Cameroun à se rendre au deuxième rang. Puis, c'est ça. Le reste, on a des latéraux de la MLS avec Mbaizo de Philadelphie, Nwutolo de Seattle, mais la MLS, sans rien leur enlever, c'est pas du même niveau que des ligues européennes. Fait que, Tom, tu avais autre chose à rajouter ou on passe à notre classement?
Moi, je serais au niveau avec un classement tout de suite, et si tu me permets, je vais me lancer.
Oui, je sens ta voix fatiguée aussi. Là,
fait que... Ouais, ben écoute, c'est ça, je suis en train de combattre une grippe.
Je comprends ça. Puis il est tard. Là. Il faut dire qu'on enregistre ça. Il est rendu 11h35. Là. Donc, on fait notre possible. Écoute, c'est aux premières loges, on va réussir comme d'habitude. On va avoir des podcasts quotidiens. Mais des fois, ça va être de ce genre d'heure-là avec les circonstances de nos journées. Voilà.
Ouais, donc, ton classement. De la vie et tout. Oui, et Brésil, voilà. En première place, évidemment. Sinon, ouais. La Suisse. Tu as dit que tu as eu beaucoup de difficultés, pas la Suisse en deuxième place, mais tu as dit que tu as eu beaucoup de difficultés à choisir un deuxième dans ton article. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas une tâche facile, mais ouais, j'ai envie de dire le Cameroun. Parce que c'est une équipe qui, honnêtement, je sais pas, c'est une équipe que j'aimerais voir passer au éliminatoire.
Ça se peut que c'est une des équipes africaines qui a le plus de chances. Le Sénégal devrait passer dans le groupe A, mais peut-être le Maroc dans le groupe F aussi. Mais sinon, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes africaines qui pourraient se rendre loin. Le Ghana, peut-être. Fait, on le souhaite au Cameroun puis à l'Afrique.
Oui, ce serait quelque chose d'assez fun. Mais écoute, c'est tellement serré pour la deuxième place. Ouais. C'est difficile de faire un choix, mais j'écoute ça le Cameroun. Juste parfait. Parce que,
ben oui, on n'a pas besoin de raison, parce que. Ouais, ensuite?
Troisième rang, je mettrais la Suisse et au quatrième rang, la Serbie. Mais comme je te dis, c'est trois, les deux, trois, quatre, ça va jouer à rien.
Tout à fait d'accord avec toi, j'ai senti un autre petit moment de... T'étais dans la lune, j'imagine.
Ouais.
Parce qu'un classement, ça se finit pas à deux. Mais on adore ça, Tom. Mais comme toi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire. T'as mis Serbie 4, hein?
Ouais.
OK. Comme toi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire mon classement, mais j'ai le même que toi, Brésil, Cameroun, Suisse et Serbie. J'ajoute un petit bémol avec la Serbie. Si Vlahovic et Mitrovic sont à 100% et sont dans bonne forme, je pense que je mettrais la Serbie deuxième pour cette explosion offensive avec Tadic, Kostic, Milinkovic-Savic. C'est vraiment la défense qui est problématique du côté de la Serbie. Mais dans le cas de la Serbie, la défense, c'est l'attaque. Si on est capable de marquer plusieurs buts face à des défenses pas excellentes niveau camerounais et niveau suisse, ça pourrait faire la job, je pense, pour la Serbie. Mais avec l'incertitude là, de Vlahovic et Mitrovic, Serbie quatrième.
Mais,
conclut... Moi, vas-y, c'est parce que ça conclut pas tout de suite. Vas-y.
Moi-même, si Vlahovic et Mitrovic sont à 100%, c'est comme un peu les Oilers, si tu me permets la comparaison. Tu as beau en marquer 4 par match, tu en accordes 5, tu perds quand même.
Ouais.
Côté de la Serbie, je suis quand même pas sûr, même si les deux sont à 100%.
La Suisse pense pas qu'elle va marquer 5 buts dans un match, bien honnêtement. Puis,
non.
Puis le Cameroun ont une meilleure attaque, c'est vrai, mais je priorise l'attaque de la Serbie quand même. Je pense que ça pourrait être une surprise, mais avec l'incertitude là, de leurs attaquants, je les mets quatrième tout de même. Mm-hmm. Alors, Tom, merci beaucoup.
Grand plaisir.
Grand plaisir. Tu es toujours là, toujours présent malgré les petits pépins physiques de la vie. Et puis, c'est ce qui conclut justement cet épisode du groupe G. Donc, demain, voilà, on va parler des matchs qui vont avoir lieu demain et celui d'aujourd'hui du match d'ouverture. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que la Coupe du Monde est démarrée, c'est lancé. C'est le party dans les chaumières. Là. Allez-y. Le niveau d'excitation est à son comble. Et puis, on vous souhaite une excellente Coupe du Monde. En mon nom, à l'animation, c'était Olivier Prince-Grolot. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée et à bientôt.